RCF.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Notre invitée a remporté une victoire de la musique en 2012. Elle a séduit le public et la critique sur scène lors des plus grands festivals de pop et de jazz en France, mais aussi à l'international. L'auteure, compositrice, chanteuse et comédienne franco-camerounaise nous présente cet après-midi son quatrième album. Je devrais plutôt dire son écrin, sa pépite, son bijou de chansons soul, rock et folk. Sandra Nkake va nous offrir une heure de son temps. Elle va en profiter pour nous présenter Scars. Accueillons cette artiste authentique et généreuse. Bonjour Sandra Nkake.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission est la vôtre, je vous propose d'y entrer.
Tout doux avec Bérangère Loup.
On va avoir l'occasion de parler de Scars, votre quatrième album, d'évoquer aussi vos concerts à venir. Mais pour comprendre comment vous en êtes arrivé là, je vous propose de remonter un peu le temps. Est-ce que ça vous convient ?
Mais carrément.
Allons-y alors. Tout commence pour vous le 15 novembre 1973 à Yaoundé au Cameroun. À quoi ressemble la petite Sandra Nkake ? Est-ce qu'elle est sage ? Est-ce qu'elle est douce ? Est-ce qu'elle est rêveuse ? Ou alors plutôt agitée ?
Alors, la petite Sandra Nkake, ça dépend à quel âge, mais je pense que j'étais plutôt à la fois une enfant espiègle, solaire et parfois très très taiseuse, parce que j'étais dans un milieu familial un peu complexe, une famille assez dysfonctionnelle, élevée entre d'un côté ma mère et de l'autre côté mes grands-parents, avec beaucoup de voyages en fait entre Yaoundé et Paris. Mmh. Témoin de violences intrafamiliales, victime d'inceste, donc c'était un peu compliqué. Donc j'essayais de me construire comme je pouvais. Donc il y avait des moments très complexes et aussi des moments très très solaires, très lumineux, très joyeux.
Avec tout ce que
j'avais envie
dites.
De faire rire les gens.
Ah oui. Je comprends vraiment beaucoup mieux votre album. On va avoir l'occasion justement de parler de Scars. On va entendre votre voix enraillée. Un des titres d'ailleurs de l'album porte ce nom-là. On comprend aussi, et on va en parler, du titre qui n'a pas été choisi au hasard, Scars. Et on va avoir une heure comme ça pour l'évoquer. C'est à l'âge de 11 ans que vous venez vous installer à Paris avec votre maman qui travaille alors à l'UNESCO avant d'intégrer la maison d'édition Présence Africaine. Quels souvenirs vous gardez justement de cette arrivée à Paris ? Est-ce que vous dites chouette, super nouveau départ au vu de ce que vous venez de nous raconter ? Ou alors vous dites nouveau changement, on doit encore s'adapter quoi ?
Alors ce départ-là, il n'était ni prévu, ni organisé, ni attendu. Donc quand on a pris l'avion et qu'on est arrivé à Paris, on pensait que ça allait être une énième pause et qu'on allait repartir au Cameroun. Parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours et c'est vrai que je n'ai pas un seul bulletin scolaire du CP jusqu'à la sixième qui soit complet. Chaque année était interrompue parce que je faisais 4 mois Yaoundé, 6 mois à Paris, puis à nouveau 4 mois à Paris, puis 6 mois Yaoundé.
Mais c'était plutôt agréable ou c'était plutôt quelque chose qui était difficile pour vous à gérer, à vivre ?
Alors, je pense que c'était partagé. Ce n'était pas que désagréable parce que l'enfant et l'enfance d'une manière générale a ça de merveilleux, c'est que il essaye d'avancer, de se construire, de ne pas trop regarder en arrière. Donc, je pense que j'essayais de positiver. Mais c'est vrai que je trouvais ça très violent, d'autant qu'on est arrivé en plein hiver et qu'à l'époque, les hivers étaient très rigoureux, jusqu'à moins 10, avec de la neige, il fallait mettre des cagoules. Alors, imaginez-vous. Donc non, je n'ai pas monté l'Everest, mais par contre, je faisais beaucoup de basket. Et donc, vous êtes dehors, sur le terrain de basket. Il fait 38 degrés, une pluie tropicale. Vous êtes en slip nu-pied avec vos partenaires de jeu. Vous jouez au basket et on vous apprend que le lendemain, vous partez à Paris. Et quand vous arrivez, il neige, il fait moins 10. Et les gens ne parlent pas. On peut pas parler à son voisin, à sa voisine. Les gens ne sont pas gentils. C'était compliqué.
Ah oui, mais j'entends quand même une grande et une forte capacité d'adaptation, hein, parce que vous devez vous y faire à ce nouveau monde. Et après, justement, des études de civilisation anglaise et américaine, à la Sorbonne, vous décidez de vous lancer dans une carrière artistique. Parce que j'ai lu que très tôt, vous vous passionnez de toutes les musiques. Alors, est-ce que c'est votre parcours qui est entre, justement, Yaoundé et Paris qui vous fait aimer ce goût pour l'éclectisme?
Je pense que le goût pour l'éclectisme, il est en partie dû à mon éducation, au fait que il n'y a pas que des désavantages à la famille dysfonctionnelle. Mmh. L'avantage, c'est que maman était souvent absente et que donc j'avais libre cours au choix dans la discothèque. Mmh. Et elle nous a appris très tôt à nous servir d'une platine vinyle. Mmh. Et elle écoutait aussi bien de la musique classique que du jazz, que de la folk. En fait, je piochais dans toute sa discographie et quand j'étais chez mes grands-parents, nous, on a été bercés vraiment à la radio. Mmh. Et ma grand-mère, qui est française, essayait de capter toutes les émissions françaises, francophones possibles. Donc, ça a donné des enfants très ouverts sur le monde, curieux de toutes les musiques. Et j'aime pas choisir. Mmh. Et je pense pas qu'il faille choisir.
Donc, vous prenez tout.
Parce que, pardon de vous interrompre, parce que ce qui me fait vibrer.
Ah oui, oui, d'accord. Et j'entends tout à fait ce que vous dites, mais j'ajoute qu'en plus de la musique, vous allez obtenir votre premier rôle au théâtre. Et ça rejoint ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, vous ne choisissez pas, vous, entre la musique, entre le cinéma, entre la télévision, eh bien, vous allez tout prendre. Et vous allez obtenir, justement, votre premier rôle au théâtre dans Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller. C'est le metteur en scène Thomas de Le Douarec qui vous donnera votre premier rôle au théâtre. Comment s'est passée cette première expérience? Pareil, est-ce que vous l'attendiez ou, comme votre arrivée à Paris finalement, ça vous est un peu tombé dessus et vous avez dit « Allez, j'y vais, c'est pour moi ».
C'est un petit peu des deux. C'est-à-dire que je n'avais jamais imaginé que je pourrais embrasser un métier artistique parce que ce n'était pas, ça faisait pas partie des possibles proposés dans la famille. Il se trouve que j'ai fait des rencontres et que ces rencontres m'ont permis de voir des ressources que je possédais et dont je ne savais même pas que je les possédais. Mmh. À la fac, j'ai rencontré une amie qui m'a entendue chanter et qui m'a dit, écoute, tu passes ton temps à chanter, va faire de la musique avec un groupe. Et donc, elle m'a fait rencontrer ce groupe et la fiancée d'un des musiciens était actrice et donc je suis allée la voir au théâtre. Et là, j'ai eu la sensation que si un jour un rôle m'était proposé, j'adorerais essayer. Et il se trouve que le metteur en scène de cette pièce, donc Thomas Le Douarec, m'avait vu chanter et il avait ce rôle de Tituba, l'esclave noir. Et il a eu envie de me le proposer. Sachant que je n'étais pas du tout comédienne, j'étais totalement ignorante, mais j'ai accepté, sachant qu'il allait me diriger avec bienveillance et grand sérieux. Je lui ai dit, écoute, si jamais ça le fait pas, c'est pas grave, on arrête, mais par contre, si tu penses que ça convient, c'est parti. Et ça a commencé comme ça, par un hasard que j'ai embrassé. Et il se trouve que en montant sur scène, j'ai été traversée par une énergie à la fois mystique, magique, très très puissante et très douce, avec cette sensation que c'était mon endroit pour être l'animal sociable et social le plus utile. C'est un endroit de costumes, de maquillage, de faux, mais c'est un endroit de vérité en fait. Et voilà, donc il n'y a pas à choisir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires, c'est de créer du lien, c'est de faire du bien aux autres. Et tous les médiums artistiques que je vais pouvoir utiliser, je vais m'en servir.
Et vous allez en utiliser beaucoup, hein, le théâtre, la télévision, le cinéma. La fin des années 90, c'est pour vous le début de votre aventure artistique. Je le disais, musique, chant et théâtre vous tendent la main. Avant de poursuivre la découverte de votre parcours, je vous propose de nous familiariser avec votre univers musical et d'écouter un des 13 titres de votre album. Lequel avez-vous envie d'écouter à cette heure-ci? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi?
Ah, parce qu'en plus, c'est à moi de choisir.
C'est vous qui choisissez. Exactement.
Alors, je dirais que je choisirais Night Reflections.
C'est la numéro 3 sur l'album.
C'est une chanson qui parle justement de ce moment de la nuit où on se transforme et où on prend des décisions. La nuit est un moment assez magique parce que nos cellules travaillent à ce moment-là. et que l'inconscient reprend le pouvoir, on arrête de vouloir contrôler. Et il y a quelque chose qui s'exprime et qui est assez beau.
Je vous propose dans le non-contrôle. À 17h13, voici Sandra Nkake.
My voice was a low key, it couldn't chant along. When blew a fraud, there to my ear was a certainty that I should write my song. With that light inside. The light. I've got this light inside, flickering warm and bright. Whoa. Years have gone, now I'm dwelling in a mansion that keeps me from wrong. Boldly glowing, I carry on my will and stand that strong. With that light inside, will my word reach the light? Light inside, flickering warm and bright. Tonight, all my reflections will meet at the center of my world, ending up the journey to find the missing one. Cheer up together and cast away the pain. They're calling out my name. They're calling out my name. Ba, 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 ba. I'm grown, ancient tales of deceit all ring in my ear. Today I know that nobody but I could draw my frame. With that light inside,
Christophe, le réalisateur de cette émission, m'a chuchoté dans l'oreille. Ça donne très envie d'aller la voir en concert. Ben, ça tombe bien, très très bien, parce qu'elle est en concert actuellement. Elle sera demain à Coutances, dans le cadre du festival Sous les Pommiers, Jazz Sous les Pommiers. Elle sera à Paris le 15 juin au Café de la Danse et le 28 juin au festival Sœurs Jumelles à Rochefort précisément. Merci d'être avec nous, Sandra Nkake. Vous nous présentez votre quatrième album Scars, qui signifie cicatrice, brèche ou entaille du passé. J'imagine que vous n'avez pas choisi ce titre par hasard. Est-ce que c'est un lien avec votre passé, avec ce que vous nous avez raconté? Et là, justement, des cicatrices que vous acceptez aujourd'hui?
Alors, cicatrices, en fait, quand on choisit un titre de disque, c'est, évidemment, c'est un geste qui est important parce qu'il va parler à lui tout seul du geste artistique global. Et les cicatrices, c'est la preuve d'un chemin parcouru, c'est la preuve de blessures refermées, c'est la preuve d'une guérison, c'est la preuve d'un ou de plusieurs combats. Et oui, en fait, j'avais envie en musique de permettre aux personnes qui vont m'écouter de savoir, de sentir qu'elles possèdent en elles les ressources pour aller mieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas condamné à vivre avec le trauma, on n'est pas condamné à ce que le trauma nous définisse. Mais par contre, il faut s'en emparer. Il faut prendre cette décision. C'est justement cette décision qui est prise dans Night Reflections de dessiner sa propre route, d'aller dans les zones qui sont pas forcément très agréables de l'esprit, de la psyché, de nettoyer ce qui doit être nettoyé et de remettre les violences que l'on a subies à leur juste place, c'est-à-dire que nous n'en sommes pas responsables. Et donc Scars, ça parle évidemment de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai subi, mais pas que. Parce qu'il s'agit pas de raconter ma vie personnelle, ça n'a pas d'intérêt. Je suis pas là pour raconter ma vie. Par contre,
ça peut être inspirant, Sandra Nkeke. Très inspirant de parler de votre vie.
En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment cette matière intime, et non pas personnelle, mais intime, peut devenir une matière collective. Et voilà, en racontant ce qui m'anime et ce qui me touche le plus profondément, j'ai ce vœu que ça résonne chez les autres. Donc les chansons, elles sont traversées par évidemment les luttes féministes, par l'antiracisme, par ce qu'on appelle la sororité, mais les sororités, le fait de se reconnaître, de se donner de la force les unes les autres, de dire que on est ensemble et que on n'a pas fini de lutter et que voilà, j'aimerais que le monde soit plus juste en ce jour de valorisation de l'homophobie, j'allais dire de l'homophobie, mais de l'homosexualité. Et voilà, et des minorités de genre, c'est important de pouvoir prendre la parole, évidemment par le biais de l'art, mais de manière poétique, parce qu'il s'agit pas non plus de donner des leçons, mais essayer de proposer des clés pour que ensemble on construise un monde plus doux.
Souvent, les compositeurs aiment lire et puisent leur imagination dans leur quotidien, mais aussi parfois dans des livres ou des journaux. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous lisez beaucoup de magazines, de journaux ou même de romans?
Oui, beaucoup de romans, pas mal de magazines aussi. J'adore le cinéma, donc je regarde beaucoup de films. Récemment, je me suis découvert une passion pour des podcasts. J'adore aller voir des expositions. Il y a beaucoup de choses qui nourrissent la personne. Parce qu'avant d'être artiste, on est une personne. Après, savoir comment ce que l'on écoute, ce que l'on lit, ce que l'on voit, comment est-ce que ça infuse dans la musique, c'est compliqué. Je pense que ça, c'est quelque chose... C'est une question à laquelle je pourrais répondre dans trois vingtaines d'années. je n'ai pas cette analyse, mais par exemple, je pourrais vous dire que certains tableaux de Dora Maar peuvent m'inspirer, tout comme ceux de Suzanne Valadon. Enfin, c'est complexe. J'aime beaucoup une autrice qui s'appelle Axel Jeanne Jiquet, aussi Léonora Miano.
Beaucoup de femmes que vous citez.
Mais en fait, sans elles, je ne serais pas là. Sans ces femmes singulières qui ont dessiné une route qui ne ressemble qu'à elles, sans attendre d'être autorisées à, je ne pourrais pas être la femme que je suis aujourd'hui, indépendante, productrice. Libre de ses mots, enfin autant que je le puisse que je puisse l'être, est-on vraiment libre, mais en tout cas avec une certaine liberté.
Bien sûr, j'ajoute aussi d'autres cordes à votre arc, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, actrice, vous êtes aussi auteur, compositrice, interprète. Si j'ai ouvert le volet lecture, c'est pour parler d'un magazine, Le Pèlerin fête cette année ses 150 ans d'existence. Sophie Laurent est journaliste au Pèlerin. Je vous propose de l'accueillir pour découvrir quelle série de pages va republier le magazine cette semaine.
Tout doux, 150 ans d'histoire avec Le Pèlerin.
Bonjour Sophie.
Bonjour Bérangère.
Cette semaine, dans la série de pages que republie Le Pèlerin pour célébrer ses 150 ans, vous êtes allée chercher les articles qui déjà se préoccupaient de la nature et de l'écologie.
De l'écologie, Bérangère, c'est beaucoup dire. La rubrique « Notre terre à tous » n'existe dans notre journal que depuis 2019. Alors bien sûr, nous avons traité de sujets liés à l'écologie bien avant, mais en 1971, date de l'article que nous republions cette semaine, c'est l'aspect pratique et de bien-être pour la santé qui l'emporte.
C'est un article sur les bienfaits du miel, si je me trompe.
Oui, du miel, mais aussi du pollen et de la gelée royale. En fait, c'est un ensemble autour de la ruche. L'article explique, par exemple, que la gelée royale est riche en vitamines diverses et qu'elle est antibiotique. La journaliste conclut d'ailleurs, je cite, que quelques milligrammes par jour suffisent pour remettre d'aplomb un organisme épuisé par la maladie. Tandis que le pollen serait bienfaisant contre la neurasthénie et que le miel augmenterait l'activité intellectuelle.
Vous avez l'air un peu sceptique, Sophie.
C'est plutôt le style de la journaliste des années 70, très affirmatif et qui ne cite pas ses sources médicales qui nous interpellent. Aujourd'hui, on irait chercher des études, des références, on interviewerait des médecins, des chercheurs, avant de donner des conseils.
Les conseils qui ont changé avec les années.
En plus, en effet, ma consoeur actuelle, qui a mis en perspective cet ancien article, relève qu'ils ont évolué avec le temps. Ainsi, on propose à l'époque de mettre un peu de miel dans les biberons des nouveau-nés pour les aider à grandir. Aujourd'hui, ce geste est fortement déconseillé par l'OMS, car il y a un risque pour les enfants de développer le botulisme. Et puis, on évite aujourd'hui de les habituer trop tôt au goût sucré.
Ah oui, ils auront tout le temps pour découvrir le sucre dans leur vie. Je confirme l'info. Le Pèlerin publiait-il beaucoup d'articles à dimension pratique à l'époque ?
Régulièrement. Cet article sur le miel intervient dans des pages où l'on regroupe alors pêle-mêle des conseils de jardinage, d'autres pour améliorer les rendements de la basse-cour, ou encore des idées qui explicitent des projets de bricolage. N'oublions pas que beaucoup de nos lecteurs étaient alors agriculteurs et qu'une majorité vivait à la campagne. Ils avaient presque tous un jardin.
C'est toujours vrai aujourd'hui, ou pas ?
Oui, mais beaucoup d'entre eux, suivant l'évolution globale de la société, habitent désormais dans des villes moyennes. En tout cas, ils sont davantage urbains qu'à l'époque, même s'ils continuent de faire beaucoup de choses par eux-mêmes et qu'ils sont très demandeurs d'actions concrètes pour participer à leur modeste mesure à sauver la planète.
Oui, et on les comprend. Merci Sophie pour ce retour sur l'histoire du Pèlerin. Et pour en savoir davantage, vous le savez, vous retrouverez cette double page dans le numéro de cette semaine en kiosque à partir de jeudi. Merci infiniment.
Merci Bérangère.
17h-18h, c'est tout doux sur RCF.
Et je me tourne vers vous, Sandra Nkeke. La nature, l'écologie, un sujet qui pourrait être au cœur d'un futur album. Est-ce que vous vous dites oui, c'est très important, ou alors non, après moi le déluge, vous savez, l'écologie, ça me passe au-dessus de la tête. J'ai l'impression que vous allez dire non, que ça vous concerne, mais je voulais quand même poser cette question comme ça.
C'est très intéressant comme question. Je m'interroge sur notre auto-qualification d'espèces supérieures par rapport aux autres. Je questionne notre intelligence. Je crois qu'on est une des rares espèces, peut-être même la seule, déjà à se dissocier des autres espèces, à considérer les autres comme des animaux et pas nous, et aussi à détruire notre propre environnement, notre propre habitat. Donc bien sûr que ça me concerne, ça nous concerne, que animaux, végétaux, minéraux sont totalement liés, et que là on est dans un moment critique, mais il y a aussi une prise de conscience en parallèle et en équilibre, et donc j'espère que les forces vives qui sont en route vont continuer à s'activer, mais effectivement il y a urgence à repenser nos manières de vivre les uns avec les autres, de consommer, de produire. Mais tant que la valeur centrale, ce sera l'argent, le profit, les dividendes, le pouvoir, la puissance, ça va être compliqué. Mais on ne lâche rien.
Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Comment vous luttez contre cela ?
Justement, c'est ce que je trouve très violent. C'est cette injonction à l'individu de devoir bien se comporter, alors même que les groupes, les groupements, les sociétés ne se comportent pas bien. Moi, ce que j'essaye de faire, j'ai envie de dire, ça ne regarde que moi. Je suis pas un exemple. J'essaie de mieux voilà, d'acheter en circuit court, d'utiliser moins d'eau, de prendre les transports en commun, mon vélo. Enfin, ce sont des tout petits gestes comparés à la pollution des grosses entreprises. Voilà, je trouve que c'est une pression qui est mise sur les individus qui est vraiment violente. La production, parce qu'on parle de production de viande beaucoup en ce moment, et voilà, on nous dit mais consommez moins de viande, certes, mais il faut voir comment la viande est produite, comment les animaux sont traités, quelle quantité et quelle qualité de céréales on leur propose, toute la déforestation que cela implique. Mais en fait, il y a des alternatives, on peut faire autrement. Mais pour faire autrement, il faut prendre des décisions politiques. Mais comme la politique est liée à l'économie et que, comme je vous le disais, la valeur cardinale, ce sont les profits. Pour l'instant, on est très très mal barré.
En marge de vos tournées, de vos résidences et en collaboration avec diverses associations, vous organisez des ateliers. Est-ce que dans ces ateliers-là, vous évoquez ce genre de sujet et vous permettez justement l'écriture de pensées qui rejoignent ce que vous venez de dire ?
Bah, en fait, l'idée des ateliers, j'en ai fait quelques-uns avec des associations qui accueillent des femmes victimes de violences conjugales et de violences familiales. L'idée de ces ateliers, c'est déjà l'expression corporelle, l'expression vocale en collectif, parce que ça permet au corps d'imprimer le souvenir d'un moment de bien-être, et que c'est un souvenir qu'on peut convoquer à nouveau à un autre moment dans sa vie. Et qu'évidemment, ce sont des femmes qui luttent de manière administrative, financière, mais il faut aussi une lutte émotionnelle. Et pour ça, il faut être, faut avoir des outils. Et dans ces ateliers-là, évidemment, moi, je vais essayer d'être passeuse. Il s'agit pas pour moi de lancer des thèmes ou d'imposer quelque chose. J'essaye de recueillir la parole, parfois de la circonscrire ou de l'articuler, mais c'est pas moi qui décide, c'est plutôt les femmes qui décident, ou en tout cas le groupe qui va décider, va impulser une énergie.
Bien sûr, la parole qui libère, la parole qui soulage, le chant aussi. Et pour beaucoup, on va continuer d'évoquer votre belle carrière de chanteuse, d'auteur, compositrice et aussi d'actrice. On se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite sur RCF.
Tout doux avec Bérangère Loup.
Et avec notre invitée Sandra Inka, qui est auteure, compositrice, interprète, j'ajoute à son arc la corde d'actrice. Elle nous présente aujourd'hui son dernier joyau, son quatrième album, qui se nomme Scars. Il est disponible depuis le 14 avril dernier. Je rappelle ses dates de tournée. Vous retrouverez toutes ces infos sur ses réseaux sociaux, mais également sur son site officiel, sandrainkaki.com. Elle sera demain à Coutances pour Jazz sous les pommiers, à Paris le 15 juin au Café de la Danse, le 28 juin à Rochefort au festival Sœurs Jumelles. Qu'est-ce que vous pensez de ça, l'accueil du public, cette présentation de quatrième album? Comment se passe votre arrivée sur scène, le ressenti? Est-ce que vous vous dites ça me manquait et je vais continuer à faire ça? Ou alors les plateaux télé, c'est pas mal aussi, parce que être à la télévision, animer des émissions, puisque vous êtes aussi la présentatrice de Platine Africa sur TV5 Monde, qui présente les musiques afro-caribéennes. Ou est-ce que vous vous dites, mais en fait, encore une fois, je vous l'ai dit, Bérangère, moi, je ne choisis pas, je prends tout ce qu'on me propose et tout ce qui me donne envie.
Pardon. Alors, je ris, chers auditorices, je ris parce que Bérangère a essayé, je dis bien essayé, de faire une question. Mais dans cette question, il y en avait plusieurs.
Ah oui.
Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes.
Ça ne s'arrêtait pas.
Déjà, je me permets de préciser que j'aurai cette chance de jouer à Lyon les 1er et 2 décembre prochains à l'Opéra de Lyon pour le Opéra Underground. Déjà, ça c'est fait.
Ah,
donc
oui.
Lyon, prenez vos places, j'arrive.
Le 1er, combien je note en même temps?
Et 2.
D'accord,
deux jours de suite, ce qui est rarissime dans une vie de musicien, musicienne, de jouer deux fois au même endroit. En général, on bouge tout le temps. Et là, on se rapproche justement d'une énergie du théâtre. Et ça, c'est super de pouvoir, quelque part, poser ses valises, installer le décor. Et on a vraiment la sensation qu'on invite le public chez nous. Et pour répondre à votre question, depuis que j'ai commencé, je me suis jamais vraiment arrêtée. Sauf quand j'ai été malade, et ça a été très peu. Non, là, présenter Scars sur scène, c'était évidemment très très attendu, très excitant, parce que quand on imagine des chansons, qu'on les produit, arrive le moment où on a envie de les partager, on a envie de sentir comment le public s'en empare, les transforme, nous font aussi les transformer, parce que de concert en concert, il y a des choses que l'on adapte, parce que quand on crée un spectacle, c'est du pur fantasme. On imagine un déroulé, on imagine une énergie, mais en fonction de comment les gens réagissent, parfois il faut faire des réajustements. Donc c'est vraiment une matière vivante, sensible. Chaque concert est différent, même si c'est le même répertoire.
Mais quelle est l'ambiance? Est-ce que vous arrivez, c'est rock, c'est folk, c'est soul, c'est posé, les gens hurlent, Sandra, Sandra, ou alors non, doux, feutré?
Alors, ça dépend des concerts, mais en général, à la fin, c'est plutôt... Non, je crois que j'ai beaucoup de chance, nous avons beaucoup de chance d'avoir un public très très varié, très nombreux, attentif, respectueux, généreux, qui vient beaucoup. D'ailleurs, on a deux concerts de suite, un à 18h, un à 20h30, et les deux sont complets.
À Coutances, hein. Ouais. Pour Jazz
et
sous les
pommiers. Ce qui est assez fou. Et voilà, et des personnes qui achètent des disques, achètent leur place de concert, nous envoient des messages sur les réseaux sociaux, m'écrivent sur le site. Enfin,
donc il y a un vrai
lien. C'est une vraie chance, oui. D'avoir des personnes qui vous soutiennent dans votre geste artistique, parce que j'ai commencé il y a un petit moment, c'est mon quatrième disque, mais chaque disque est une aventure différente, avec une musique qui va être différente, même si c'est toujours moi, il y a quand même quelque chose qui est différent à chaque fois.
Écoutons justement ce que vous nous proposez dans cet album. On a déjà entendu tout à l'heure Night Reflection. Qu'avez-vous envie d'entendre à cette heure-ci, à 17h36? Est-ce qu'on part sur une voix éraillée, Under My Skin, My Heart, Sister, Trois Feuilles, Scars, Raising Up, Lose Control, Terre Rouge, She Walk Alone, Singing Live ou Nos Voix?
Eh bien, à 17h36, sur RCF,
oui.
Nous allons écouter Terre Rouge.
Pour quelle raison?
Parce que cette chanson parle justement de mon rapport à ma terre natale. Et j'avais très envie dans ce disque et dans cette chanson en particulier de pouvoir dire quelques mots dans une langue que je ne connais pas, parce qu'elle ne m'a pas été apprise. Et c'était pour moi une manière de faire le lien et de dire à ma terre que je l'aime et qu'elle est en moi.
Je dessine ma route vers ce chez moi pourtant méconnu. Voilà ce que vous écrivez sur ce titre-là. Je vous propose de l'écouter.
cadence, je prends. Je te sais en moi, pourtant je ne te connais pas. Tous les sons de ma voix dansent comme toi, et je chante. Je crie à l'envi contre l'oubli. Mais là, quand j'ai de sel, mouille cette terre, trempe les perles.
Sandra Nkake avec Terre Rouge. Si vous voulez entendre le reste de ce titre, vous pouvez vous procurer son dernier album qui s'appelle Scars. Il est disponible depuis la fin du mois d'avril. Vous pouvez également aller sur des plateformes en ligne. Vous pouvez pianoter sandranekake.com pour avoir plus d'informations sur cet album. Découvrir également où elle sera prochainement et peut-être près de chez vous. Je rappelle qu'elle sera demain à Coutances dans le cadre de Jazz sous pommier, le 15 juin à Paris au Café de la Danse, le 28 juin à Rochefort au Festival Sœurs Jumelles, à Lyon le 1er et le 2 décembre à l'Opéra de Lyon. Sandra Nkake, vous l'avez compris, notre invitée, elle nous présente son quatrième album Scars. J'ai constaté que vos écrits s'inspirent du quotidien, de vos racines, de vos doutes, de l'amour aussi. Est-ce que les animaux vont faire leur entrée dans cette liste et quel rapport vous avez avec les animaux, Sandra ?
Vous voulez parler des autres animaux ? C'est ça ?
vous pensez que l'homme est un animal ? C'est ça que vous voulez dire aussi ? Féroce,
alors,
parfois ?
Je pense que l'espèce humaine est tout à fait... fait partie du monde animal, comme les autres.
Les autres animaux, quel rapport vous avez avec les autres ?
Ben, j'essaye d'avoir un rapport le plus respectueux possible. Ça ne m'empêche pas d'en consommer parfois, moins qu'avant, mais quand même. Mais pour ce qui est de ceux que je ne consomme pas, j'essaye de les traiter correctement. Et à ce titre... J'avais cette conversation avec ma grand-mère qui me disait « Mais tu n'aimes pas les animaux ?» Je dis « Ah bon ? Mais pourquoi tu dis ça ?»« Mais parce que tu n'en as pas !» Et moi, j'ai répondu « Mais c'est justement parce que je les aime que je n'en ai pas. » Et en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'idée de la possession, même si j'entends qu'on peut avoir un rapport très, très doux et qu'il y a des animaux qui ont une grande influence dans la vie de certaines personnes, parce que on peut aussi avoir un animal pour des raisons thérapeutiques, psychologiques, parce que ça aide, notamment des chiens. Mais sinon, j'essaie de les laisser tranquilles et je veille à ce qu'on les laisse tranquilles. Mais quels que soient les animaux, d'ailleurs, parce que un cheval n'est pas plus important qu'un escargot. Mais voilà,
de les laisser tranquilles et libres, on entend bien ça. J'ai ouvert le volet animalier.
Autant que possible. Après, c'est vrai que bon, voilà, je les consomme, donc c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais
oui. Après, on peut parler d'animaux de compagnie. On a bien compris, hein, parce que vous pensez que vous allez être végétarienne d'ici quelques semaines ou quelques mois. C'est un projet dans votre tête ?
Alors là, pas tout de suite, mais pourquoi pas. Je suis pas contre l'idée. De toute façon, je pense que il faut qu'on aille à l'économie. Déjà, on mange trop. Pour notre santé. Donc voilà. Après voilà, je suis aussi une gourmande, donc je suis comme tout le monde, je suis pleine de contradictions, donc réduire c'est déjà pas mal.
C'est un bon début en effet. À cette heure-ci, je voudrais vous présenter Agathe Dutot, des éditions Fleurus. Chaque mercredi, elle met en lumière un animal. Aujourd'hui, celui qu'elle nous présente est très impressionnant de par sa taille, mais aussi sa mémoire.
Tout doux, incroyables animaux.
Sandra, le micro reste de nouveau ouvert, vous pouvez intervenir. Agathe, bonjour, soyez la bienvenue.
Bonjour Bérangère.
Avec sa trompe et son barrissement tonitruant, il est reconnaissable entre mille. Lui, c'est évidemment l'éléphant. Alors Agathe, il paraît que l'éléphant bat tous les records. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Absolument. Pour commencer, c'est l'animal le plus fort du monde. Il peut soulever jusqu'à 9000 kilos, ce qui représente le poids d'environ 130 humains adultes. Et s'il est si fort, c'est grâce à son corps lourd et massif qui le rend plus stable, mais aussi grâce à sa trompe puissante et à ses défenses solides, grâce auxquelles il est capable de déraciner un arbre.
C'est très très impressionnant. Hein. Mieux vaut ne pas l'embêter, j'imagine, cet éléphant. On risquerait de finir en mauvais état. Mais alors, justement, sa fameuse trompe, elle lui sert à quoi ?
Eh bien, en fait, sa trompe, elle lui sert de nez, et c'est un nez imposant qui mesure 2 mètres en moyenne pour 100 kilos, ce qui fait de lui l'animal avec l'odorat le plus développé du monde. Par exemple, si on lui présente 2 récipients avec de la nourriture dedans, il est capable de savoir dans lequel il y en a le plus, rien qu'à l'odeur.
Ah oui, c'est un nez, c'est un pic ! Que dis-je ? C'est un roc ! Il n'y a rien à envier, il n'a rien du tout, cet éléphant-là, à envier à Cyrano de Bergerac. Mais alors, quel autre record détient-il cet éléphant ? On pourrait imaginer un record de poids peut-être.
Vous avez tout à fait raison. L'éléphant est le plus gros mammifère terrestre du monde, et pas seulement en poids mais aussi en taille. Les mâles mesurent environ 7 mètres de long et 3,50 mètres de haut, pour un poids entre 5 et 8 tonnes. Et quant aux femelles, elles sont légèrement plus petites, puisqu'elles mesurent environ 5 mètres de long et 3 mètres de haut, pour un poids d'environ 3 tonnes et demie.
C'est vraiment du lourd. Hein. On peut dire et on peut ajouter qu'il ne passe pas inaperçu, cet éléphant. D'ailleurs, ce sont des animaux solitaires ou est-ce qu'ils vivent en groupe ? Que diriez-vous, Agathe ?
Eh bien, en général, l'éléphant est un animal sociable, mais les mâles sont plus solitaires que les femelles qui, elles, vivent en harde avec les petits. D'ailleurs, les individus de ces troupeaux sont très soudés et s'entraident beaucoup. Ils se protègent des dangers et un éléphant blessé n'est jamais laissé de côté, de la même manière que les petits sont entourés et surveillés.
Vous parliez des petits, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les éléphantaux ?
Absolument. Alors déjà, la maman porte son bébé pendant 22 mois avant qu'il ne naisse, ce qui fait de l'éléphant le mammifère ayant la plus longue gestation du monde. Ensuite, les éléphantaux pèsent environ 100 kilos à leur naissance et sont déjà capables de marcher. Du coup, ils suivent le troupeau et apprennent très rapidement à obéir aux femelles de la harde.
Ils reçoivent une éducation stricte, ces bébés, qui n'ont pas vraiment la taille d'un bébé d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous savez tout ça sur les éléphants ? Est-ce que vous avez infiltré une de leurs hardes ?
Pas du tout. C'est grâce au documentaire Définature, les incroyables records des animaux, publié aux éditions Fleurus. Dedans, on apprend quels animaux sont les plus petits, les plus bizarres, les meilleurs parents. En bref, tous les records qui concernent les animaux.
Merci beaucoup Agathe pour ces précisions. Je me tourne et je vous garde avec nous Agathe quelques secondes vers Sandra Nkake. Est-ce que les éléphants d'Afrique ou autres vous fascinent, vous intéressent ou vous dites oui encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, la liberté, liberté, liberté.
Là ce que ça m'inspire c'est un souvenir d'enfance. Je sais pas si vous avez vu ce dessin animé, Le Livre de la Jungle.
Bien sûr, bien sûr. J'apprécie tellement votre voix que je pourrais l'écouter encore et encore.
et je vois ce petit éléphanteau qui essaye de suivre cette grande rangée d'éléphants. C'est tellement drôle et les éléphants sont très tendres, sont très intelligents, et sont très, très, très gentils.
Merci pour ça. Merci aussi Agathe. On va se retrouver avec le même plaisir la semaine prochaine. Cette fois-ci pour d'autres histoires incroyables d'animaux. Au plaisir de vous entendre, Agathe.
À bientôt.
17h-18h, c'est tout doux sur RCF.
Nous avons reçu à votre place il y a quelques semaines Jid Roof, le flûtiste de talent, partage votre vie. Il partage activement aussi votre dernier album. Tout comme vous avez joliment participé au sien. Sur le vôtre, il joue de la flûte, il a fait des chœurs, des percussions, de la fric guitare. Depuis toujours, vous multipliez les collaborations. Je pense à Gérard Toto, Tony Allen à vos débuts ou plus récemment à Jacques Higelin lorsque vous avez participé au disque collectif Les Amoureux du Banc Public. La collaboration, on l'imagine, elle peut parfois être heureuse, mais parfois elle peut aussi être périlleuse. Qu'en est-il lorsque votre partenaire de vie est aussi votre partenaire de travail ? Vous avez compris ma question. En fait, c'est quoi votre secret pour réussir votre vie pro et votre vie perso ?
Vous voulez dire comment faire pour que les deux réussissent en même temps ?
C'est ça. Oui,
ou comment réussir chacune ?
Répondez, est-ce que vous avez compris ?
Eh bien, je ne sais pas ce que ça veut dire réussir, mais j'essaye d'envisager la relation avec d'autres humains comme l'entretien d'une plante. L'amitié et l'amour, ce sont des plantes à entretenir, à savoir écouter, à savoir observer. Il y a une forme de régularité dans cet entretien. Il y a aussi une forme de poésie et de remise en question régulière. On a cette chance de, je pense, de partager beaucoup de valeurs communes, de beaucoup discuter et échanger sur ce qui nous traverse, sur la manière dont le monde est fait. Et quand, pour ce qui est du travail, on est à la fois très passionné, très passionnel et en même temps totalement désaffecté. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est le projet, de quoi le projet a besoin. Et donc effectivement, quand il écrit, quand on coécrit ensemble pour son disque ou pour le mien, ça va pas être le même geste. Et quand on interprète pour le sien ou pour le mien ou pour des projets en commun, à chaque fois, ça va être différent. Même si on peut reconnaître notre patte, en tout cas, on va pas utiliser les mêmes procédés. Et donc, ça fait que depuis plusieurs années maintenant, notre rapport artistique n'a de cesse de se renouveler, de s'enrichir, de s'ouvrir aussi, de se questionner. Ce n'est pas parce qu'on travaille ensemble régulièrement et depuis très longtemps qu'on est toujours d'accord. Mais c'est justement ça qui est intéressant. Je trouve que déjà, en fait, à partir du moment où on est deux, déjà à deux, on est une mini-société. Et c'est important de prendre le temps de s'écouter de manière sans jugement, sans que ce soit à charge, et essayer d'entendre ce que l'autre a à dire.
Moi, j'entends beaucoup d'écoute, j'entends beaucoup de partage, j'entends beaucoup d'échanges. Est-ce que vous avez le même rythme de travail? Est-ce que vous composez, vous, par exemple, plutôt le matin, plutôt le midi? Non, je ne sais pas, ça arrive quand ça arrive et hop, j'ai toujours un carnet. Et là, vous êtes en phase ou alors non, chacun de son côté et après vous rassemblez?
Ça dépend, Bérangère, ça dépend. Non, ça dépend.
Ah oui, faisons ça. Faisons l'interview chantée.
Faisons l'interview chantée. Je vais répondre en chantant. Ça dépend des moments. Ça dépend des albums. Ça dépend de.
Pour celui-ci, par
là,
exemple.
Pour celui-ci, on a circonscrit des périodes de travail. D'abord d'écriture des textes. Et on s'est posé à la Maison de la Culture d'Amiens, dans le studio Gil Evans. Où lui, il est artiste résident. Et en fait, on a passé de longues heures à discuter de quel serait le thème principal et ensuite les thèmes à décliner. On a circonscrit des champs lexicaux. On a aussi circonscrit ce que l'on voulait dire, ne pas dire. Et puis, il y a un moment où on s'est séparés. Chacun était dans sa pièce et puis on se donnait des rendez-vous. On se faisait lire des choses. Et on avait aussi une espèce de petits plannings de travail et on voulait qu'à la fin de la semaine, de la première semaine, on arrive à avoir finalisé les textes et être sûr que dans tous les textes réunis, il y aurait tous les mots totems qu'on avait dont on avait décidé au départ. Et ensuite, il y a une deuxième séance de travail qui, elle, était axée sur l'écriture des mélodies. Et ensuite, une autre séance de travail qui était de s'assurer que les tonalités des chansons correspondaient à l'énergie qu'on voulait mettre, et en particulier moi dans l'interprétation. Donc, parce que le thème, un des thèmes centraux, c'est quand même la voix. Et il fallait que la voix soit au bon endroit de résonance. Et une fois qu'on a trouvé ça, donc c'est quand même assez long, s'est posé la question de la temporalité du travail, d'écriture des arrangements, de l'orchestration et donc de la production. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais tellement intéressant, réjouissant. Je dis travail, mais il n'y a que la contrainte temporaire que l'on s'est mise, mais il n'y avait aucune contrainte ni morale, ni affective. Tout ça, ça s'est vraiment fait dans la joie, dans le plaisir, dans la découverte aussi. C'est vraiment comme le travail, c'est comme une espèce de boule énorme de fils, de pelote qui vous tombe sur la tête et puis il faut tirer les fils et puis là, en faire quelque chose. Ça n'existe pas l'inspiration. C'est vraiment le travail. Et en fait, plus on travaille, plus on écrit, plus on peut écrire et plus aussi on peut se dire, ah ben finalement ce texte-là, il était nul, viens on le jette. Oui, on peut jeter. En fait, pour arriver jusqu'à vous, il y a beaucoup, beaucoup de chansons écrites. Mmh. On n'a pas tout gardé et c'est important. C'est vraiment un travail d'artisan comme les boulangers, comme les menuisiers.
Enfin, et ce travail et ce résultat s'appelle Scars. Je vous conseille et recommande ce 4e album de Sandra Nkake.
Jusqu'à 18h, c'est tout doux sur RCF.
Je le disais tout à l'heure, vous êtes aussi actrice, vous avez commencé au théâtre, le cinéma est arrivé rapidement après. On vous a vu par exemple dans le film Podane, Casablanca Driver, King Guillaume et récemment dans Les Amandiers. La série télévisée PJ, entre autres, hein, vous a confié un rôle. Est-ce qu'on vous appelle pour votre talent d'actrice seulement ou il vous arrive parfois que vous composiez aussi quelques bandes-sons et que vous portiez et posiez votre voix?
Tout arrive et je mesure la chance que j'ai de pouvoir embrasser plusieurs niveaux de création et d'interprétation. C'est vraiment chouette de ne pas s'installer dans une routine, dans des habitudes, d'être toujours dans un terrain inconnu. Non, moi j'ai plutôt l'impression à chaque fois de naître à nouveau. De découvrir.
Mais est-ce qu'on vous dit, oh, tu vas pouvoir jouer et en même temps composer? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ou pas encore? Et justement, ça pourrait être l'occasion, là, si quelqu'un nous entend.
Jouer et composer en même temps?
Oui.
Je ne pense pas.
Ça vous est pas arrivé? C'est-à-dire, on vous a pas demandé. Oui, c'était vraiment une question. On vous a pas dit un jour, ce serait super que tu fasses aussi la bande-son, que tu poses ta voix sur notre film.
Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai joué dans un film. Et le réalisateur a choisi une de mes chansons pour une séquence du film.
C'était quel film?
Il s'appelle Lucas Bellevaux. Et le film s'appelait Pas son genre. Mais par contre, jouer et composer en même temps, non, ça ne m'est pas encore arrivé, mais je suis encore vivante.
Tout est possible,
et
vous avez raison.
Je ne suis qu'au début.
On va terminer cette émission en écoutant votre dernier choix musical. Quel titre vous avez envie de nous offrir pour terminer cette émission? Et par la même occasion, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter? Vous avez vu, encore une fois, je cumule
allez,
deux questions.
Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter?
Oui.
Ce que vous voulez. Je pense une bonne santé déjà.
Ah oui.
Je pense que le être pour être bien dans son cœur et dans son esprit, il faut aussi être bien dans son corps. Et la réciproque est vraie. Pour avoir une bonne santé mentale, il faut avoir une bonne santé physique. Donc de la santé. Moi, ce que je me souhaite, c'est de continuer à prendre du plaisir à faire ce que je fais et à continuer à le faire avec plaisir. Quand le plaisir sera parti, j'arrêterai.
Ah oui. Je pense que ça ne va pas arriver demain.
En fait,
oui, voilà, c'est ça. Ouais. On est bien d'accord là-dessus. Et quel titre vous avez envie d'entendre?
Le titre s'appelle My Heart.
Oui,
mon
pourquoi
cœur,
celui-ci?
Qui dit que même à terre, personne ne peut nous empêcher de nous relever. Personne ne peut nous empêcher de créer. C'est une chanson spéciale pour toutes les femmes qui sont victimes de violences. Et pour leur dire qu'elles ne sont pas seules, qu'on est ensemble, qu'on peut se relever et qu'on a le droit d'être en colère. Qu'on en a marre de compter nos mortes, mais qu'on ne va pas se laisser faire.
Je rappelle que votre 4e album Scars est disponible depuis fin avril et que c'est un petit bijou que vous nous avez présenté. On peut vous suivre sur vos réseaux sociaux. On peut également aller sur votre site internet sandranekake.com. Bonne série de concerts et à très bientôt, j'espère. Sandra Nkake, merci pour ce moment partagé.
Merci beaucoup. My heart pumping in my chest. Even though my body's so cold, I feel old on the ground. Ain't nobody listening but my heart. Tells the truth, can't deny. Telling stories my body can't hide. I'm bleeding on the floor. No one here to witness my wounds. My scars don't lie. And my heart is burning. Pain won't break me down. I'm a stranger to your hatred. I'm stronger. Dread and malice come to me no harm. I'm stalking, I keep on. Even though 100 soldiers
marching to kill me. There's no turning back for me. I run carefree, unruly. Gotta tell my truth and break up the silence, this violence. And my heart is burning.